Bonjour à chacun. Je propose qu'on remette ce moment à Dieu. Et je vous proposerai de réfléchir sur cette question. À votre avis, quel est le but ultime de l'Évangile? Vous m'entendez comme ça? Ça va?
Oui.
Je dis vite, qu'en penses-tu? Seigneur notre Dieu, tu as une bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. Nous avons pu te dire quelque chose ce matin qui est sorti de notre cœur. Et puis tu as entendu tous ces cœurs qui ne se sont pas exprimés par des paroles audibles. Mais nous voulons vraiment ensemble nous laisser pénétrer par ton amour. Nous voulons nous laisser transformer par toi. Ô Seigneur notre Dieu, quel bonheur d'être tes enfants. Quel bonheur de savoir que quand nous te parlons avec notre cœur d'une manière sincère, il y a de la joie dans ton cœur. S'il te plaît, notre Dieu, aide-nous à vivre un moment maintenant qui nous rapproche de toi et qui nous fasse du bien pour les jours qui viennent en attendant le retour de ton Fils bien-aimé. Nous t'adorons ensemble, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors, j'ai la joie de pouvoir vous parler d'un sujet qui m'a interpellé au début du confinement, donc en 2020. J'ai eu un peu comme une rencontre, oui, avec mon Dieu. Et au début de cette pandémie, il y avait cette incertitude, un nouveau virus, qu'est-ce qui va se passer? On commençait à entendre parler que les hôpitaux étaient pleins, il y avait des décès, et on ne savait pas où on était. Et j'ai eu une nouvelle qui venait d'Afrique, de la RDC, de l'Est de la RDC, et qu'il y avait une épidémie du virus d'Ebola qui recommençait. Et j'entends que ceux qui sont infectés par ce virus, nous ne connaissons pas le virus qui nous est en train de nous atteindre, 70% des personnes atteintes mouraient. Et là, tout à coup, nous étions à l'époque 28, ma femme et moi, 5 enfants, leurs conjoints, 16 petits-enfants. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, il y en a peut-être 19 qui vont partir. En même temps, bon voilà, retraité, j'avais un peu d'argent en bourse et il y avait certaines valeurs, en tout cas, qui ont perdu en 48 heures 40%. J'ai dit, peut-être, dans une semaine, il n'y aura plus rien. Et la question qui m'était posée, Philippe, est-ce que ta foi s'appuie sur les cadeaux de Dieu ou sur moi? Et c'est ainsi une grande réflexion s'est faite. Je ne savais pas que Dieu me préparait pour le départ de mon épouse. Je ne savais pas. Mais cette rencontre m'a amené à réaliser, mais si tout s'en va, si tu perds tout, est-ce qu'il te reste quelque chose? Oui. Et c'était le quelqu'un, la personne qui me parlait, qui resterait et qui ne change pas. Et si tout s'en va autour de vous, tout s'écroule autour de vous, il y a quelqu'un qui reste. Celui qui t'aime. Et donc, j'aimerais partager ça. Et deuxièmement, Il y avait une sœur dans l'assemblée de La Rochelle, je suis, me disait, mais est-ce que Philippe, tu as entendu? Tu as entendu nos prières? La réunion de prière? Et puis j'ai dit, mais mes prières, est-ce que c'est simplement une liste de courses? M'adresse à mon donateur. Voilà, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Oh, merci, tu m'as donné, oui. Quelle est la qualité de la relation avec Dieu? Voilà, c'est sur ce sujet que j'aimerais m'arrêter un moment ce matin avec vous. Et j'ai mis cette parole, Moïse m'étonne et m'interpelle quand il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire et je vous expliquerai pourquoi. Dieu a une bonne nouvelle pour toi, il est lui-même l'évangile, il est lui-même la bonne nouvelle, le cœur de la bonne nouvelle. Donc je lui réponds déjà à la question que je posais au début. Mais pourquoi est-ce si essentiel de mettre l'accent sur Dieu et que disent les Écritures? Alors nous allons lire un texte dans le... Alors là, j'ai pas pu vous faire la musique marchant pas, j'avais du rap à vous proposer, alors c'est peut-être pas très original, c'est dommage, mais là ça fonctionne pas aujourd'hui. Alors voilà, donc je vous donnerai les références si vous voulez. On va lire un texte dans le livre de l'Exode au chapitre 33, soit vous prenez votre Bible ou vous lisez ici, je vous ai mis les textes. Et ce texte de Moïse est un moment tragique de l'histoire de ce peuple, parce que Dieu ne supporte plus son peuple qu'il a fait sortir d'Égypte à cause de son incrédulité, de son idolâtrie. D'ailleurs, quelque chose qui va peut-être nous servir dans la réflexion que nous allons avoir. Le veau d'or a été fait avec quoi? Avec des cadeaux de Dieu, oui. Parce que Dieu a fait que les hommes, les femmes, avant de partir, Dieu a trouvé le moyen que le peuple reçoive des cadeaux en or, en argent, en pierres précieuses du peuple des Égyptiens. Et ils ont emmené ça avec eux, cadeaux de Dieu, et ils l'ont offert. Pour faire quoi? Une idole. Vous réfléchirez bien suite de ma réflexion. Alors, c'est un moment où Dieu dit, eh bien, je laisse tomber le peuple, mais toi, Moïse, on va aller ensemble jusqu'au pays promis. Ah oui, Moïse, non, non, pas question, tu as fait des promesses pour le peuple. Donc moi, je ne bouge pas si tu n'emmènes pas le peuple avec moi. Voilà le débat qu'il y a eu, et nous lisons le texte de la parole de Dieu au chapitre 33 d'Exode. Moïse dit à l'Éternel, Éternel, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc il ne prend pas Dieu par les sentiments, mais il met Dieu devant ses promesses, devant ses déclarations. Et l'Éternel dit à Moïse, je te ferai cela aussi dont tu as parlé, car réellement c'est vrai. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, mon meilleur. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra être vu. C'est quoi la gloire? C'est très difficile à définir, mais c'est quelque chose qui nous parle d'honneur, de majesté, de quelque chose qui est en abondance. Richesse, une splendeur, quelque chose qui est en relation avec l'honneur, mais aussi un trésor. Voilà, la gloire. Et voilà, ici, Moïse qui demande, fais-moi voir ta gloire. C'est pas étonnant? Vous trouvez pas ça étonnant? Moïse a vu la gloire de Dieu à maintes reprises. Les 10 plaies d'Égypte, traverser la mer Rouge, 600 000 familles qui traversent là. De voir l'armée d'Égyptiens qui est engloutie dans cette mer. Et puis, il y a la Pâque. Il y a tous les matins, l'eau du rocher, il y a tout cela. Et puis la présence de Dieu dont on a parlé ce matin, la nuit avec une colonne de feu, et puis le jour avec une nuée. Et fais-moi voir ta gloire. Il n'est pas content, ça ne lui suffit pas. Ce n'est pas seulement la puissance de Dieu qu'il veut voir, mais voir le Dieu qui fait tout cela, entrer dans son intimité. Vous savez, la présence de quelqu'un et la connaissance de quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple. Vous connaissez votre médecin. Vous pouvez dire, ouais, c'est un bon médecin, il a un super diagnostic. Moi, je te le recommande, en plus, il y a un bon dialogue avec lui. Mais qu'est-ce que vous connaissez de lui? Vous connaissez que dans ce qu'il fait. C'est important, c'est vrai. Mais Moïse est frustré, il veut connaître qui est vraiment ce Dieu, voilà, qui lui dit, j'ai trouvé grâce, voilà, j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te connais par ton nom. Voilà, c'est pas, tu ne fais pas partie des gens, non, je te connais toi personnellement. Et voilà ce Dieu qui veut pour Moïse et le peuple. Le meilleur. Et c'est beau de voir que ce Dieu va se révéler progressivement à Moïse. Et comme celui qui passe devant l'Éternel, on a parlé de l'Éternel ce matin, celui qui est, il est, il était, il est, il sera, il est le même. Donc ce que la manière dont il se révèle là à Moïse, c'est pour nous aussi. C'est celui qui passe devant nous. Combien il y a des périodes qui nous dépassent. On ne peut pas faire même le pas de devant. Mais il y a mon Dieu qui me dit, je passe devant toi. Je t'ouvre le chemin. Suis-moi. Et si tu n'y arrives pas, je te porte. Quel bonheur. Oui, c'est ce Dieu-là qui est tout puissant. En réalité, qui est... ce Dieu qui peut dire « Je suis tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. » Mais celui qui vient remplir ton cœur. Oui, est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, tu n'as plus peur. Même quand le chemin te dépasse. Un chemin que tu n'as pas choisi. Oui, quelquefois on a l'impression d'être comme sur des sables mouvants. Alors voilà le secret. L'Éternel répondit, voici un lieu près de moi et tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Oui, notre Dieu, on peut placer notre confiance en lui car il est le rocher éternel, le rocher perpétuel. Et pour ceux qui peut-être ici ont passé par ou passent par des moments où ils ne savent plus trop où ils en sont, le secret est là. Dieu le rocher te dit, viens près de moi, près de mon cœur. Il y a un psaume, c'est le psaume 131, qui parle d'un enfant sevré qui vient là, sur les genoux de sa mère. C'est pas dit tout à fait comme ça, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Il est dit, c'est vrai. Il ne vient pas là pour chercher quelque chose. J'ai faim. Non. Être là auprès de sa mère pour sentir son cœur battre. Notre Dieu, ce grand Dieu des cieux et de la terre, est celui qui s'approche de toi pour faire sentir son cœur d'amour pour toi. Il te dit, je ne te lâcherai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alors, ici, là, ici, Dieu couvre, met sa main, parce que il ne peut pas, Moïse, tout comprendre. Il ne peut pas tout savoir. Mais nous non plus. on ne peut pas tout savoir de ce Dieu si grand, si infini. Mais il y a une différence incroyable entre Moïse et nous. Parce que depuis la résurrection de notre Seigneur, la mort et la résurrection de notre Seigneur, Dieu, dans son amour, nous a donné son esprit, Dieu le Saint-Esprit, pour venir habiter. Ce qui fait que, comme l'apôtre Paul nous le suggère dans la deuxième épître aux Corinthiens, et d'ailleurs nous y reviendrons, voilà, or le Seigneur c'est l'Esprit. Nous sommes dans cette épître où l'apôtre Paul va parler de son ministère, le ministère de la nouvelle alliance, de l'alliance de la liberté, l'alliance de l'Esprit, d'une gloire qui ne s'arrêtera jamais, alors que le ministère qui était proclamé dans l'Ancien Testament a été glorieux, mais qui amenait la condamnation, la loi, parce que l'homme pécheur ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Eh bien, cette gloire, puisque la loi a été donnée d'une manière très glorieuse, allait avoir sa fin avec la venue du Christ. Eh bien, nous sommes ici dans une situation où, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, il est là, cette liberté. La main de Dieu est ôtée pour voir, pour entrer progressivement dans un processus de sanctification, dans la découverte de qui est ce Dieu dont nous recevons toutes choses. Alors nous contemplons à face découverte, sans voile, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés à son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, de gloire en gloire. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire celle de l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que ce processus nous amène à ressembler de plus en plus au Seigneur. Mais ce n'est pas la finalité de la bonne nouvelle que Dieu veut nous donner dans le Nouveau Testament. C'est de découvrir que l'Évangile, le cœur de l'Évangile, eh bien, nous révèle que Dieu est le don suprême de l'Évangile. Donc la deuxième partie, c'est pourquoi est-ce essentiel, et comme je le disais tout à l'heure, de mettre l'accent sur Dieu quand on parle de l'Évangile dans la période actuelle. On fera un constat. Quel type de relation ai-je avec Dieu et le Seigneur Jésus? J'ai un petit peu dit quelque chose tout à l'heure là-dessus. Deuxièmement, le salut de l'homme pécheur est-il le but de l'Évangile? Troisièmement, être satisfait des dons de Dieu, est-ce le critère déterminant d'une nouvelle naissance? Et après, nous passerons à ce que disent les Écritures. Quel type de relation ai-je avec Dieu? Dans cette bonne nouvelle, l'Évangile, sont contenus une quantité incroyable de biens précieux. J'en ai mis quelques-uns. Propitiation, un sang qui est versé, rédemption, libération de notre esclavage du péché, régénération, nouvelle naissance, pardon, adoption, justification, résurrection, la vie éternelle, bientôt l'entrée au paradis, dans la maison du Père, et puis des multitudes d'autres, dont quelquefois la guérison de maladies, etc. Une famille, tant de choses. Voilà ce que nous allons découvrir dans cette bonne nouvelle. Ce sont des biens précieux, et c'est important et c'est fondamental que nos prières soient remplies de remerciements et d'actions de grâce. Mais si nous arrêtons là, nous arrêtons à la moitié du chemin. Parce que le but de l'Évangile, ce n'est pas d'être tourné vers soi, mais vers celui qui donne. Et que justement, le projet de Dieu, c'est de découvrir le donateur. Celui qui donne tout, qui est à l'initiative de la bonne nouvelle, bien sûr. Mais celui qui veut se révéler dans cette bonne nouvelle. Oui, nous avons besoin aussi de comprendre, mais vraiment, que chacun des dons, des cadeaux de Dieu ont été achetés par quelqu'un, ont été achetés au prix du sang de Christ à la croix. Que tous ils ont été conçus pour ont ôté l'obstacle qui nous empêchait de venir à Dieu pour le connaître, pour l'aimer, pour entrer en relation avec lui, pour l'apprécier, pour l'aimer. Oui, je crois vraiment que tous ces cadeaux contenus dans l'Évangile ont été achetés par le sang de Christ. Et n'oublions jamais cela. Nous ne méritons rien. Tout est un cadeau d'un Dieu qui a tout pensé à l'avance pour que des hommes, des femmes puissent être des personnes qui lui fassent plaisir dans leur vie et dans ce qu'ils expriment. Ils ont pour seul objectif ces cadeaux de Dieu, de trouver notre bonheur suprême en Dieu lui-même. Et je vous ai dit tout à l'heure que si notre foi, parce que Dieu m'a appris ça, s'appuie sur les cadeaux de Dieu, alors bien sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas être ôtés. Mais souvent on entend « j'ai trouvé du travail, je suis béni de Dieu ». Bien sûr, c'est une grâce. Mais si j'aime Dieu parce qu'il m'a donné ça, alors ça, c'est pas le but. Et je vais y venir encore dans un petit moment. Le salut de l'homme pécheur est-il le but de l'Évangile? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans le monde occidental où nous sommes, nous vivons étant obnubilés par nous-mêmes, par notre bien-être, par la réalisation de nous-mêmes, comme si l'homme était la mesure de toute chose. Et cet esprit, cet état d'esprit, risque de nous influencer et de mettre finalement Dieu au second plan, et de penser, oui, que la Bible, c'est le cœur de la Bible, c'est nous, c'est l'homme pécheur. Je voudrais que on accepte ce que j'affirme ici, c'est que Dieu est fondamentalement, radicalement centré sur lui-même, sur son Fils Jésus-Christ, que la parole de Dieu est radicalement centrée sur Dieu et sur Christ. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment Paul, qui a été appelé pour justement annoncer cette bonne nouvelle, eh bien, lorsqu'il écrit le début de l'épître aux Romains, qui justement nous parle de l'Évangile, la puissance de Dieu, voilà ce qu'il écrit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, cet Évangile concerne son Fils, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection. Oui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, Dieu met au cœur de l'Évangile son propre Fils et la gloire de son Fils avec ce titre de fils de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur. Je sers Dieu de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous faire connaître une personne divine d'une manière particulière. Et il va se faire connaître. Quand vous lisez ici cette affirmation dans l'Épître aux Romains aussi, c'est de lui, de Dieu, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Est-ce que vous pensez que si vous déclarez ça au monde qui vous entoure, est-ce qu'ils vont sauter de joie en disant « Waouh ! Quelle phrase ! Dieu est au-dessus de tout !» Et toi, tu fais quelque chose quand tu lis un verset comme ça, de lui, par lui, pour lui, toutes choses viennent, toutes choses, à lui la gloire dans le siècle des siècles. Quel est le pourcentage d'adoration dans tes prières quotidiennes? Alors, je continue dans cette réflexion. Dieu, qui est-il? Et on a Ésaïe, l'évangile de l'Ancien Testament, qui pose des questions et qui dit, mais qui a mesuré dans le creux de sa main l'océan? Qui est-ce qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main? Les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau et comme un grain de sable. À ses yeux, elles ne sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. Dans le chapitre 40 d'Ésaïe, c'est écrit. Et on a aussi, mais à qui comparerez-vous Dieu? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ah ouais, c'est tellement immense, mais c'est inabordable. Eh bien oui, pas du tout. Ce Dieu-là va dire dans le chapitre 44 qu'il ne se lasse pas, qu'il ne se fatigue pas et qu'il s'approche de toi, de nous, pour renouveler nos forces. Il s'approche tout près, ce si grand Dieu, il s'intéresse à toi. Et quel est le but? Et vous trouvez ça dans le chapitre 43 d'Ésaïe, au verset 21. C'est tout ça pour que nous puissions raconter la louange de Dieu. Un peuple pour louer Dieu. Voilà. Voilà la raison d'être de cette bonne nouvelle que ce peuple de racheté, par un prix inouï, puisse louer Dieu. Apporter ça, son adoration, sa reconnaissance bien sûr, mais son adoration. Oui, je voudrais que vous réfléchissiez un peu sur les motivations de vos prières. Si le but c'est pour avoir une meilleure vie, une vie sans maladie, sans problème, etc., eh bien je crois que ce sont des motivations qui ne sont pas pures. Parce que vraiment, notre Dieu veut nous combler de ses grâces, de son amour. De choses que nous ne méritons pas. Mais ce Dieu si grand désire que nos cœurs se tournent vers lui. Voilà. Quand on est occupé de soi, on est souvent déçu. Même souvent, on se dit, mais Dieu m'entend plus. Mais il a changé. Il est absent. Il m'aime plus. Parce qu'on prie, il répond pas. Mais je crois que nous devrions réfléchir à quelque chose. Ce n'est pas la question de proposer à Dieu nos désirs, mais de rechercher quels sont ses désirs à lui. Et nous découvrirons finalement que ce qu'il va nous donner, eh bien c'est le meilleur, même si nous ne l'avons pas choisi. Nous avons besoin, je crois, j'en suis convaincu, de prédications qui enseignent un Dieu grand, majestueux, qui est le but ultime de l'Évangile. Je vais continuer dans une réflexion. Est-ce que quand on est content, on dit merci pour tous les dons de Dieu, est-ce que c'est un critère déterminant d'une nouvelle naissance? Alors je vais vous donner un exemple ici d'un drame qui a eu lieu le 21 juillet 2020 à Grenoble. Il y a ici, dans cet appartement en feu, deux jeunes enfants de 10 ans et de 3 ans. La maman a fermé à clé en partant faire des courses. Et il y a l'enfer ici. Alors, il y a des voisins qui voient ça et qui essayent d'ouvrir. C'est pas possible, j'ai fermé à clé. Ils vont dehors et ils proposent au grand frère de 10 ans, lance ton petit frère et nous sommes en bas pour le récupérer. Et après, tu sauteras, toi, et puis voilà, on viendra, on va t'accueillir. Et de ceux qui a reçu, le garçon de 10 ans, a eu même l'avant-bras cassé. Alors on peut se dire, voilà, merveilleuse histoire de l'Évangile, hein, de Jésus qui sauve de l'enfer. Mais l'histoire, c'est à peu près terminé là. Ils se sont peut-être parlé, ils se disent merci, ils sont contents de se revoir de temps en temps, mais c'est fini la relation. Et notre relation avec Jésus, avec Dieu. Voilà, tu m'as donné la vie, je vais aller au ciel, et c'est bon, et je vais vivre ma vie comme ça. Ça va nous faire réfléchir à bien des choses. Comment se fait-il que quelquefois, quelqu'un qui vient d'être baptisé, et pendant des mois, ça se passe bien, puis tout d'un coup, tout s'arrête. Plus de relation, vraiment. Je suis un break avec Dieu. Hein, je prends lire la Bible, ça, bon, j'y trouve aucun intérêt. Ici, il y a quelque chose qu'on pourrait se dire. Est-ce que vous croyez que quelqu'un, s'il y a vraiment un enfer, qu'il soit pas chrétien ou chrétien, s'il y a vraiment un enfer, de vivre l'éternité dans l'enfer? Est-ce que vous croyez que quelqu'un a envie d'être sous la condamnation d'un Dieu juste et saint et pendant l'éternité? Est-ce que vous avez envie d'avoir un corps malade, etc.? Non. Mais si vous voulez tous ces dons-là, vous n'avez pas besoin de la nouvelle naissance. Vous pouvez très bien même vous profiter, moi, je suis tout seul, profiter de l'atmosphère chrétienne. Et ça va bien aller. Est-ce que c'est ça, vraiment? Au fait, si vous voulez aller au ciel, et si vous êtes dans une période difficile, un moment où tout s'écroule autour de vous, je veux aller au ciel. Pourquoi? Pour être bien, parce qu'on dit que c'est bien là-bas. Mais finalement, votre relation avec Dieu, elle est quoi? C'est une relation d'intérêt ou une relation d'amour? Alors, le pire scénario, c'est ce que Jésus dit. Il y a des personnes qui le suivent. Ah, mais c'est formidable, ils suivent Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Ah, ça ne donne pas la vie éternelle, vous savez. Et pourtant, on a profité de l'atmosphère. On était bien avec les chrétiens quand même. Ouais. Alors il y a le deuxième scénario qui est quand même meilleur scénario. Et on est tous en chemin. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous avez désiré le pur lait de la parole. Mais vous n'avez pas encore grandi. Mais justement, moi, je voudrais aujourd'hui vous dire que vous avez un bonheur immense de grandir et de trouver en Jésus, mais votre trésor avec lequel vous ne pouvez pas vous séparer, pas une minute. Ça ne veut pas dire que vous allez aller vivre dans les nuages. D'ailleurs, Dieu n'est pas dans les nuages. Non, dans la présence de Dieu, dans cette vie spirituelle qui fait partie de votre être. Quand vous êtes né de nouveau, de vivre une relation d'intimité avec le Dieu invisible pour le monde qui nous entoure, mais qui est bien là, vous le connaissez. Comme on l'a entendu ce matin, c'est le papa. Jésus, c'est mon sauveur, Jésus-Christ. J'aimerais te connaître mieux, Seigneur. Et je sais que l'amour dont tu m'as aimé est intense. Mais je ne le réalise pas bien. Je suis sûr que, ouais, il faudra l'éternité pour entrer dans cet amour infini, toujours renouvelé. Et finalement, le bonheur que Dieu veut nous proposer, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un bonheur sur la terre? Il y a des moments extraordinaires sur la terre. Cette fois, vous n'avez jamais dit, j'aurais aimé que ça ne s'arrête pas. Moi, j'ai été 49 ans marié, j'aurais aimé que ça ne s'arrête pas. Mais tu as trouvé meilleur là. Mais dans le ciel, ça ne s'arrêtera jamais le meilleur de ce que vous avez vécu dans votre vie. Réfléchissez, un moment inouï, ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est quelque chose qui est profond parce que tout votre être est pris. Et c'est pour l'éternité. Voilà ce que propose justement notre Dieu. Donc, ça ou ça? Je pense que on a tous, ouais. Dans les moments qui vont pas bien, oui, ça, on a aussi de ça. Mais grandir dans cette relation avec Dieu, c'est d'aller de plus en plus vers ça, être amoureux. S'il y en a ici que ça est arrivé, ben franchement, au début, quand on se quitte avec sa fiancée, ben c'est pas drôle ce moment-là, hein? Parce que ça, mais votre moment avec Dieu. C'est pas seulement le dimanche matin comme ce matin, on s'est réjouis vraiment. Alors je continue, parce que si je fais pas attention, je vais être obligé de m'arrêter en cours de route. Que disent les Écritures? On a déjà lu la Bible, mais il y a des déclarations explicites, ça veut dire qui mettent en évidence justement cette gloire de Dieu qui est essentielle dans cette bonne nouvelle qui nous est proposée. En plus que c'est quelque chose qui est pensé depuis longtemps de la part de Dieu. On va regarder ça à quelques versets. Et puis, voir la valeur suprême de Dieu. Je reviens à la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, mais je voudrais lire avec vous, si vous voulez bien, le début de ce chapitre, de l'épître au deuxième épître aux Corinthiens. Vous savez, je vous ai lu tout à l'heure ce verset où le Seigneur est l'Esprit, là où est l'Esprit, il y a la liberté. Et puis, vous allez être transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit. C'est pourquoi, chapitre 4, c'est pourquoi, ayant ce ministère, l'apôtre Paul, dans cette deuxième lettre, va expliquer son ministère. Donc c'est le ministère de la nouvelle alliance. Donc quelque chose qui nous parle que le centre de cette alliance, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui est là et qui nous permet d'entrer en relation avec le Dieu infini. Alors c'est pourquoi, ayant ce ministère comme étant les objets de miséricorde, nous ne nous lassons pas. Mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret. Nous ne marchons pas avec ruse, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a la deuxième partie de l'épître, c'est il y a des faux apôtres, des super apôtres, mais qui sont hélas des anges se déguisent en anges de lumière, mais ils sont sous l'autorité du diable. Et il va justement défendre son ministère. Eh bien, voilà, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. Et si même alors notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, les pensées, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette, écoutez bien, l'évangile de la gloire de Dieu, de Christ. L'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur. Voilà. Vous voyez, Satan veut que l'éclat de cette gloire de Christ, eh bien, ne soit pas visible. Et pour le monde, mais aussi pour nous. Il ne veut pas que nous nous réjouissions quand nous sommes dans la communion avec ce Dieu de lumière, quand nous nageons dans l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Le Christ qui nous révèle, qui est Dieu. Et puis il va continuer, il va un peu redire la même chose en disant, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille dans les ténèbres, alors ça nous ramène à Genèse au chapitre 2, hein, tout d'un coup, la lumière fut, il dit, et la lumière fut, mais a aussi fait briller sa lumière, Dieu lumière brille dans mon cœur, dans ton cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, qui rayonne du visage de Christ. Voilà la bonne nouvelle de Dieu. Dieu veut te décentrer de toi pour se recentrer sur Dieu, sur la lumière de Dieu, sur la lumière de Christ. Et la gloire qui est donnée, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, est la même gloire que la gloire de Dieu dans la personne de Christ. On voit qu'il insiste pour dire en opposition avec l'évangile qui peut être frelaté et qui met Dieu au second plan. Ça n'a pas marché, donc je vous ai dit tout à l'heure, un rap, et qui dit, est-ce que Dieu finalement est une option? Hein, c'était ça dans le message. Oui, est-ce qu'on utilise Dieu quand on en a besoin? J'insiste beaucoup parce que j'ai eu aussi ces problématiques pendant de nombreuses années. Donc beaucoup de versets de l'Écriture nous montrent la grandeur, la gloire de Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Vous trouvez ça dans les premiers chapitres de l'Évangile de Jean, Vous trouvez ça ici dans les versets que je vous ai donnés, dans l'épître aux Éphésiens, vous trouvez ça dans l'épître aux Colossiens d'une manière extraordinaire, et puis dans l'épître aux Hébreux. Alors, c'est vrai que si Dieu est, si l'évangile est prêché correctement, alors qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, la gloire de Christ va briller dans ses souffrances, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son pardon et dans tous ses dons, mais au-delà de la somme de ses dons, dans sa propre personne. Alors, Paul va continuer à nous dire que, eh bien, il a reçu ce ministère, la grâce d'annoncer ou d'évangéliser les richesses infinies de Christ, et qui va nous amener dans une relation particulière d'épouse avec son époux. Oui, une relation amoureuse avec ce Dieu et qui est si grand et si riche. Alors c'était vraiment sa vie, lui. Il avait une raison de vivre. Pourvu que j'achève la course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 2. Parce que tout est grâce. Parce que vous et moi, nous ne méritons rien. Et c'est ce qui fait le prix inouï de cette bonne nouvelle et de ce don de Dieu. Alors, on a aussi, on pourrait se dire, mais depuis quand Dieu pense à ça? Eh bien, si Dieu est réellement l'évangile, il n'y a pas de commencement, puisque c'est lié à la personne de Dieu. Et c'est vrai que dans l'Apocalypse, au chapitre 14, il dit, je vis un ange voler d'en haut dans le ciel, et il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de toute la terre, toute tribu, toute langue et tout peuple. Un évangile éternel. Et c'est vrai que nous apprenons, il y a sept choses particulières qui ont été imaginées dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde, avant toute création. Mais je voudrais lire ce verset-là de Timothée, où Dieu nous a sauvés, nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, son propre plan, sa propre grâce. Nous ne méritons rien. Cette grâce de Dieu nous a été donnée dans le Christ Jésus avant le temps des siècles, depuis toujours, enseigne Paul à Timothée, 2 Timothée 1, verset 9. Et Éphésiens 1, je vais lire ça, ce verset qu'on connaît peut-être un petit peu plus. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Par Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas seulement nous sauver. Hein, faire des gens, ben, voilà, tu as le billet pour le ciel, c'est bon, maintenant tu te débrouilles. Non, non, ses propres enfants adoptés. Et c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Mais pourquoi faire? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Pas simplement dire, ah, je suis sauvé, je suis le gâté, je suis le béni, je suis un béni. Non, ce n'est pas ça. C'est la moitié du chemin. Hein, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et tout cela, c'est lié à une personne qui t'aime, qui a tout donné, qui s'est laissé clouer sur la croix, qui a accepté la condamnation à ta place. Voilà. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous ferait-il pas don, accorderait-il pas aussi de tout avec lui? C'est la conséquence, c'est pas le but. Voyez. Et puis ce verset aussi qui est très, très étonnant, car tout vous appartient. Nous sommes liés à Christ. Voilà, que tout, que ce que soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort nous appartient dans ce sens que nous n'avons plus peur de la mort, elle ne nous engloutit pas. Non, elle n'a plus de pouvoir. Sa puissance a été ôtée et nous sommes dans la résurrection avec notre Seigneur. Mais toujours, tout est à vous, vous à Christ. Christ à Dieu. Voilà, c'est méditer ces textes. Donc le but de l'évangile est la gloire de Dieu. Cette gloire brille tant et par sa grâce et par ses dons. Oui, nous voulons célébrer cet évangile, cette gloire de Dieu dans les. Voilà. Nous voulons le. Alors, je vais terminer avec quelques citations et je les prendrai. Dans l'Ancien Testament, ça vous paraît peut-être bizarre, cette bonne nouvelle, mais parce que quelques textes de l'Ancien Testament nous touche particulièrement parce que c'est un lien direct avec le donateur. Je voudrais lire ce premier. J'ai eu de plaisir qu'en toi. Dieu est le rocher de mon cœur et ma bonne part. On trouve ça dans le psaume 73. Je n'ai de plaisir qu'en toi. Deuxième, dans le psaume 43. J'irai à l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie, mon allégresse, je te célébrerai. Tu es ma joie et mon allégresse. Prenez tout ça pour des phrases de prière que vous allez adresser à votre Dieu que vous aimez tant. Dans le psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le début de la journée à voir ta force et ta gloire. Tu vaux mieux que la vie. Vous êtes convaincu de ça? Moi, oui. Ensuite, dans les Philippiens, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de Christ Jésus, afin que je gagne Christ. Comparé à toi, tout est ordure. Oui, il ne faut pas, se méprendre avec ça. Ça ne veut pas dire que nous devons tout abandonner. L'apôtre Paul était très lié à cette religion juive qui avait été sa nourriture. Et ça, il n'en avait plus besoin. Parce que Christ n'était pas là. Voilà, c'était toi. Ensuite, ce verset dans le psaume 16, « Dans ta présence, il y a d'abondantes joies et un bonheur éternel. » Un bonheur éternel. Et je vous disais tout à l'heure, ce bonheur est beaucoup plus profond que tous les bonheurs de la terre. Et il ne s'arrête jamais. Alors la bonne nouvelle est que Dieu est lui-même la réalité la plus précieuse qui soit. Et qu'il est pleinement suffisant pour combler mon âme. Même dans les moments les plus difficiles de la vie. Alors, j'arrive à la fin, à ma conclusion, avec ce petit verset qui résume vraiment tout. Car Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin que vous ayez la vie éternelle. Non. Voilà. Afin de vous amener à Dieu, le donateur. Il y a ce verset si touchant de 1 Jean 3. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc il y a encore une marche, il y a encore un moment inouï qui nous attend. Mais toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Et oui, c'est le chemin de la sanctification. Quand vos cœurs est pris, comme l'apôtre Paul, il m'a saisi, hein, il m'a saisi le Christ. Eh bien, il y a des choses qui avaient de l'importance comme au moins, c'est vrai. Et oui, ça c'est... Parce que souvent on dit, mais comment je vais résister à ça, vous voyez? Eh bien, voilà, le secret... C'est d'avoir, dire Seigneur, prends ma vie, vraiment, vraiment, je veux être lié à toi, mais dans le concret de chacune de mes journées. Voilà, la dernière prière de Jésus me touche aussi tellement. Père, je veux que là où moi je suis, là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. On peut commencer sur la terre. C'est le cœur de l'évangile, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, Père juste. Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur fais connaître ton nom, et je leur ferai reconnaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Mais imaginez, le Dieu qui a dit à Moïse, je te connais par ton nom, est en train de nous dire que l'amour dont il aime son fils est un amour qu'on n'imagine pas. Voilà, Jésus est en train de dire, Moi, je les aime comme ça. Est-ce que vous vous sentez aimé de Dieu, même dans le chemin que vous n'avez pas choisi? C'est la clé de l'espérance, la clé du courage. Voilà. Le plus grand but de l'Évangile est de reconduire des pécheurs vers le cœur de Dieu, pour connaître une joie sans fin en contemplant la gloire infinie de Christ. J'ai eu aussi l'occasion, dans le mois qui a précédé le décès de mon épouse, de lire ce texte, ce livre, qui justement faisait partie de cette école de Dieu pour moi. Je vous conseille, il n'est pas simple, pas trop simple, mais ce que vous avez entendu ce matin, c'est un peu de ce livre, avec ce que j'ai pu vivre par la grâce de Dieu, finalement, ces dernières années. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Parce que je crois que c'est tellement merveilleux de vivre en tant qu'amoureux de Jésus, de Dieu. Hein?